Direct en jeu, la radio insolite. Imaginez le bonheur ce matin. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis avec la fille de Jim Carrey, avec la sœur d'Ed Sheeran. Oh, oh là là là. Bonjour Emeline.
Bonjour.
Alors, je tiens à signaler à tous les auditeurs qui m'ont appelé pour me dire qu'est-ce que tu racontes Alain, que mes sources sont clairement identifiées. Je peux vous dire que j'ai bien comme info qu'elle est la fille de Jim Carrey, la sœur d'Ed Sheeran. Et en plus, devinez quoi? Est-ce que je peux le dire Emeline?
Vas-y.
T'es belge.
Ouais. Faut juste les prévenir, Jim Carrey et Sheeran, parce que je sais pas s'ils sont au courant.
Ah bah oui, mais moi c'est pas rien, moi c'est l'indication que j'ai sur les recherches que j'ai fait, quoi. C'est tout. Dis-moi, t'es tombée dedans quand t'étais petite ou quoi?
Ah, c'est sûr. Je sais pas de quoi tu parles, mais oui.
Bah, d'après les infos que j'ai, ta vocation s'est révélée quand tu avais 10 ans. Il n'y a pas très longtemps, on dirait.
Ah ouais, il n'y a pas trop, c'est gentil ça. Oui, le théâtre, oui, c'est une grande histoire d'amour, ouais. Bien tombé dedans, la bière aussi, c'est pour ça que je demandais la différence.
Oh non. Oh non.
Mais le théâtre, oui, c'est quand j'avais 10 ans, ouais, parce que j'étais une enfant très timide, première de classe, Hermione dans Harry Potter, voilà, c'était vraiment, vraiment comme ça. Et ma mère m'a inscrite au théâtre. Et en plus, mon premier rôle qu'on m'a donné, c'était de jouer une prostituée. Et j'étais en école catholique. Il y avait les profs, les bonnes sœurs. J'ai dû jouer une prostituée devant ces gens-là. Et en fait, c'était très libérateur de se déguiser, de surprendre, de faire rire aussi. Et puis, c'était pas moi. Et ça m'a vraiment donné confiance, en fait. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire plus tard. Pas prostituée, mais comédienne. Voilà.
C'est gentil de préciser. Est-ce que je suis tombé moi ce matin? C'est pas possible. Mais dis-moi, il y a une erreur de casting malgré tout. T'as quand même fait une licence de lettres modernes.
Ouais, mais ça c'est parce que je me suis battue avec mes parents pour faire ce métier. Puis c'était pas passe ton bac d'abord, mais fais un diplôme d'abord. Donc voilà, il me fallait un plan B. Le plan B c'était d'aller dans l'enseignement. Et entre temps, l'enseignement, il fallait un master. Mais j'ai quand même arrêté à la licence. Voilà.
Tu as peut-être raté ta vie, hein?
Pas du tout. Non, je pense pas. Pas du tout, parce que j'enseigne aussi aujourd'hui, de toute façon.
D'accord. Alors, je tiens à signaler aux auditeurs que le bruit que vous entendez, c'est qu'elle monte un escalier, puisqu'elle était à l'extérieur, et là, elle est en train de grimper. Exactement. À l'intérieur.
Là, j'arrive dans ma salle de répète que j'ai louée, je suis un peu en retard, mais c'est la salle que j'avais prévue pour l'interview. Mais j'ai un petit peu de retard, mais là on va être tranquille.
Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci outre mesure. Bon, dis-moi, tu t'es révélé dans plusieurs one-man shows, tu as fait de la comédie musicale, tu as quand même fait aussi des choses un peu dramatiques, du style Rescapé du Titanic, donc c'est quand même relativement intéressant. Et puis surtout, en 2020, il y a quelque chose qui a changé ta vie.
Eh oui, je suis devenue maman.
Et alors?
Et alors? Et alors quoi?
Ça change complètement le concept de vie.
Ça change complètement la vie, ça change la manière de voir la vie, ça remet vraiment tout en question. En plus, ma fille est née entre deux confinements, donc l'année blanche, les théâtres fermés, c'était très dur pour moi, franchement. Ouais. Le truc des non-essentiels, tout ça, c'était... Voilà, et puis en fait, quand j'ai repris le travail en 2021, quand elle avait un an, c'est là que j'ai commencé à travailler sur George Sand, en fait.
D'accord, mais une chose avant, si je peux me permettre, le plus important, c'est que tu fais partie de l'association Nétoile, et ça, je trouve que c'est bien d'en parler, parce que c'est très chouette ce que tu fais.
Ah, merci. Bah, en fait, je ne fais pas partie de l'association, mais j'ai fait des formations auprès de Sandra Meunier, qui est la fondatrice de l'association. C'est-à-dire que je ne travaille pas pour eux, mais je suis formée... Et ses enseignements ont été vraiment incroyables et m'ont permis de monter le prochain spectacle là que je travaille aujourd'hui. Donc oui, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Oui, l'accompagnement par le soin, par le rire et d'aller en hôpital, c'est toujours un projet que je me réserve pour l'avenir, quoi.
D'accord. Donc c'est très chouette parce que c'est en effet, comme on dit, clown à l'hôpital. Et je trouve que c'est bien d'en parler. Bon. On va parler un peu de la dénommée Amantine Aurore Lucille Dupin.
Oui.
Où est-ce que tu as été nous chercher une personne comme ça? Franchement. Alors, au fait, voilà. C'est qui Amantine Aurore Lucille Dupin?
Amandine, Lucille, Aurore, du pain. Il faut le dire dans le bon ordre. Là, oui, elle est, c'est Georges Sand. Hein. C'est pour moi. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour cette autrice quand j'ai entendu son nom pour la première fois au collège. De voir une femme si libre dans l'époque qu'elle était à écrire, à prendre un nom d'homme pour pouvoir écrire, à s'habiller en pantalon parce qu'elle supportait pas les corsets pour qu'elle puisse se promener seule, librement, de divorcer, mais d'être maman, d'être campagnarde et en même temps dans la ville, de liberté, voilà, dans tous les sens, et d'écrire tous les jours et d'avoir aussi une sagesse. En fait, ouais, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette artiste depuis le collège. Et quand j'avais déjà lu Histoire de ma vie, qui fait 1500 pages, quand j'étais à l'université. Et donc, quand ma fille avait 1 an, je me les suis refarcie. Je voulais faire un spectacle sur elle, mais comme il y a déjà eu plein de choses biographiques, etc., je me suis dit, mais ce que je trouve génial, c'est toutes les digressions, parce qu'elle part dans tous les sens quand elle écrit ses mémoires. Mm-hmm. Et elle va parler d'un sujet, passer d'un sujet à un autre, et des choses banales de la vie de tous les jours jusqu'à des choses très profondes. Et je me dis, ça serait génial de faire un spectacle là-dessus, en fait, pour faire en gros le stand-up de George Sand, quoi. Si George Sand venait sur scène, là, aujourd'hui, pendant 1 heure, parler aux gens, qu'est-ce qu'elle leur dirait? Et du coup, d'aller prendre des sujets qui ont traversé 150 ans, mais qui sont toujours aussi d'actualité, quoi.
Alors, ce qui est assez original, c'est quand même, elle est quand même née le 1er juillet 1804. Donc, tu as été vraiment chercher quelqu'un. Oula, attention, hein.
Chercher, je sais pas, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un truc qui marche. J'ai pas du tout réfléchi comme ça. En fait, ça partait d'une commande d'un théâtre avec lequel je travaillais depuis des années, qui commandait des seuls en scène pour la mairie de Paris, pour les retraités, en fait, qui venaient voir des spectacles l'après-midi. Et donc, oui, c'était parti d'une commande. Et puis moi, on me propose de faire un seul en scène. Le premier, ça a été Rescapé du Titanic, parce que c'est un thème qui me touche beaucoup depuis l'enfance. Et après, voilà, c'était Georges Sand. Mais je n'ai pas réfléchi autre que par le cœur, en fait, par la passion de cette...
On peut réfléchir par le cœur. Pas mal.
Exactement.
Alors, en plus, comment dire, 2026, c'est une année un peu particulière puisqu'on va fêter les 150 ans de son décès.
Oui, oui, oui. Et il y a même une pétition, là, je ne sais pas ce qu'il en est, mais il y a des gens qui ont créé une pétition pour qu'elle soit amenée au Panthéon. Mais d'autres gens qui refusent, parce que je pense que si elle a voulu être enterrée dans sa maison dans le Berry, je pense pas qu'elle aurait envie d'en sortir. Donc on est là, est-ce qu'on emmène quelques cendres ou pas? En fait, il est question peut-être qu'ils emmèneraient un petit peu de terre du Berry pour symboliser qu'il y a George Sand. Mais ce serait formidable si cette année, en plus, elle était panthéonisée. Ce serait... C'est fou.
Oui, parce que quand on regarde un peu son parcours, elle passait pas inaperçue. Elle était un peu d'avant-garde, hein.
Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, même jusqu'à être critiquée dans son propre village, parce qu'elle montait pas en Amazon, elle avait une jambe de chaque côté comme les hommes. Certains la traitaient de sorcière. C'était fou. Elle a jamais été comme les autres. Mais elle a un peu une éducation, un peu comme un garçon manqué, mais elle était aussi très, 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 très éduquée, très, très. Elle a eu une éducation de sciences, de latin. Enfin. Moi, elle me fascine. Et en même temps, les mains dans la terre, à connaître toutes les plantes, à être, en fait, vraiment reliée avec la nature. Enfin, elle me fascine beaucoup.
D'accord. Voilà. Une question. Le spectacle dure combien de temps?
Je me limite à 1 heure.
Alors, comment tu peux te limiter à 1 heure avec une personne aussi riche?
C'est très compliqué. Mais comme je disais tout à l'heure, au début, c'était une commande pour les retraités de la ville de Paris. Et comme je jouais l'après-midi, donc comme c'est des personnes très âgées, ils ont tendance à s'endormir après le repas, etc. Non, mais en fait...
Au moment où tu commences à parler, je me dis, c'est pas possible. Ils vont tous piquer un roupillon durant le spectacle.
Donc, en fait, on m'avait prévenu. On m'a dit, s'ils dorment, c'est pas de ta faute. Mais voilà, on m'avait prévenu. Et donc, je m'étais dit, si je suis seule en scène, il n'y a pas d'action. Mon personnage ne vit pas les choses. C'est vraiment comme si on buvait un verre avec elle et elle parle. Donc, je dynamise beaucoup dans mes mouvements, dans ma voix, j'essaye d'avoir son énergie, en fait, mais c'est vrai que, ouais, il faut tenir les gens réveillés, donc je me dis, ouais, il y a tellement de choses, il faudrait faire plein de spectacles, mais je pense que pour parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi. Une heure, c'est bien, parce que voilà, pour pas que les gens s'ennuient. J'ai pas envie que les gens s'ennuient.
Ah ouais, pas mal cette blague. Oui, si vous voulez pas dormir, hein, vous avez compris ce que vous faites. Hein, vous allez soit voir le spectacle, soit vous venez en Avignon. Vous êtes sûr de pouvoir éventuellement être bien installé, bien au chaud, bien tranquille. Vous êtes percé par la voix d'Emeline,
qui non, va là, quand même.
Hein, quoi?
Oh, je suis une piètre vendeuse.
Ah non, mais franchement, je trouve ça assez extraordinaire ce que tu viens de dire. Hein.
C'est non, fabuleux. Mais en fait, vraiment, c'est vrai. On m'a dit ça dans le théâtre où je jouais. Et c'est vrai que c'est des personnes très, très âgées. Donc, si je joue à 15h et qu'ils sortent de leur repas, ils s'endorment dans les salles. Et pourtant, je parle fort. Hein. Et après, quand j'ai été reprogrammée, je parlais toujours aussi fort. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, dis donc, vous parlez fort. Je dis, oui, c'est vrai, faut que je... mais non, le spectacle est dynamique. Mais c'est vrai que je pense que quand vous voyez, il y a des pièces qui peuvent durer très très longtemps. Quand vous avez plusieurs acteurs, oui, plusieurs personnages, plein d'intrigues et tout ça, là, il n'y a pas d'intrigue. C'est une heure, c'est un moment hors du temps que j'aimerais avec elle, en fait, en communion avec elle. Donc, je pense qu'une heure, c'est très bien, en fait. Et là, ce sera à Avignon à 17h, donc il n'y aura pas de problème de sieste post-repas. Ce sera juste avant l'apéro, dans une salle climatisée. Et voilà.
On pourra se mettre au frais parce qu'il fera très chaud dehors, donc il n'y a pas de problème.
Oui, voilà.
Oh, oui, y a pas de souci.
C'est ça.
Le spectacle, il n'est pas tout nouveau. Je crois qu'il a déjà tourné 2 saisons.
Oui, c'est ça, exactement. Au Guichet Montparnasse, l'endroit où il a été créé. Ouais, il a été programmé l'année dernière et l'année d'avant.
Et c'est ton premier Avignon ?
Non. J'avais fait 2 Avignons. Un Avignon sur une pièce de Jean Anouilh, un autre sur une comédie au Paris. Et l'année dernière, j'y étais avec un autre de mes seuls en scène, One Woman Show, qui s'appelait Folle du Titanic, justement.
D'accord. Donc, ouais, ça roule maintenant, il n'y a pas de problème.
Ah ouais, j'adore Avignon, je suis une rodée d'Avignon et j'ai trop hâte d'y retourner. Et j'espère même y retourner l'année prochaine avec le prochain spectacle. C'est chouette que tout, c'est une chance en fait d'être vu par le public et de voir un petit peu où ils vont aller, quoi.
D'accord. Par contre, tu y es sur la totalité du festival ?
Tout à fait.
D'accord. C'est un marathon, oui, dis donc. Hein.
Ouais. J'adore. Là, il y aura relâche les mercredis. Il y aura relâche les mercredis. Mais sinon, c'est un marathon. C'est 4-5 heures de marche par jour, jouer tous les jours. Mais il y a aussi, voilà, c'est une espèce de colonie de vacances parce qu'on connaît beaucoup de monde. Il y a beaucoup de... Voilà, allez, on va boire un petit pack à l'eau, on se retrouve, on va manger ensemble. Il y a plein de spectacles à voir. Enfin, j'adore cette ville.
Moi, je rêve. Elle vient de dire qu'Avignon, c'est une colonie de vacances. Ah, bah bonjour.
Franchement, je tiens à rappeler qu'il
y a que les comédiens qui ont un jour de repos. Hein. Colonie de vacances, elle est pas mal, cette blague.
Non, mais pour te dire, l'année dernière, quand je suis arrivée, moi, pour moi, à chaque fois où là, c'est le plus dur, c'est les tout premiers jours.
Ah, bah oui.
Le temps de se mettre dans le rythme, etc. Mm-hmm. Où là, j'ai les genoux par terre et je sais pas comment je vais tenir. Et c'est là où c'est dur. Et que j'ai des collègues qui disent, bah, dis donc, ça a même pas commencé, t'es déjà comme ça. Donc, ils se la pètent. Par contre, à la fin, qui sait qui a pas envie de partir et qui sait qui est rodé dans sa routine et dans son rythme, et tout le monde qui a envie de crever, bah, et voilà. Ah bah, moi, je suis en pleine forme à la fin.
Est-ce qu'on a moyen de voir le spectacle avant Avignon ou si les gens ne viennent pas à Avignon, est-ce qu'il y a moyen de le voir?
Eh bien, c'est une excellente question. Alors, je sais que la semaine le 23 avril, il y a une date qui est prévue à Angers. Mm-hmm. Donc, il faudrait que je vous envoie peut-être les détails parce que je ne les ai même pas moi-même. La production va me faire une date à Angers la semaine fin avril. Après, sinon, c'est directement à Avignon. Et j'espère le rejouer à Paris aussi. Enfin, de toute façon, on espère le faire tourner aussi vu que c'est une date clé pour Georges Sand de l'amener dans le plus de villes possible. Voilà.
D'accord. Donc, vous avez compris, 23 aussi, avril, évidemment. Tout le monde va à Angers. Sinon, vous venez en Avignon. Voilà, vous n'avez pas de solution.
En gros, c'est ça.
Écoute, je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous faire sourire, pour montrer comment dire que même sur un sujet aussi particulier, on pouvait passer un moment agréable. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'on est sûr de ne pas s'endormir durant ton spectacle. Donc,
Non, mais parce qu'en plus, voilà, j'ai relevé les traits de philosophie, les digressions, les pensées, mais beaucoup de traits d'humour aussi. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de poussiéreux parce que je la vois pas du tout comme ça. C'est très énergique en fait, voilà, parce que j'ai dit que les gens s'endormaient, mais c'était un public particulier.
D'accord.
C'est vraiment l'énergie de, comme je fais beaucoup de stand-up et tout ça, j'amène cette énergie là pour elle, quoi.
Ben, merci à toi et puis plein de bonnes choses en tout cas.
Merci beaucoup.